Le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce lundi 31 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence par un accusé qui s'excuse.
Les excuses de Nordal Lelandais au premier jour de son procès pour le meurtre de la petite Maëlys. Il reconnaît lui avoir donné la mort, mais sans autre explication à ce stade. Sa personnalité, ses anciennes relations étaient aujourd'hui au cœur de l'audience. Nous serons aux assises de l'Isère à Grenoble dans un instant. Nouvel accès de fièvre entre Paris et Bamako, l'ambassadeur français est expulsé du Mali. Élément d'explication de cette décision brutale à suivre. À suivre également le conseiller en communication d'Éric Zemmour, visé par une plainte pour viol. Le prix du café qui explose et Warner qui signe un nouveau contrat de gestion des chansons de Jacques Brel pour mieux les diffuser.
À 18h15, un jour dans le monde avec Jean-Pierre Filiu. Ce soir, le chercheur et universitaire spécialiste du Moyen-Orient. La question qu'on pose, c'est celle du retour de Daesh, qui a prouvé ses capacités dans l'attaque d'une prison la semaine dernière. Dans quel but pour revenir comment au premier plan? Nous ferons ensemble aussi un détour par le Mali. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on va essayer de voir si on y voit plus clair à gauche, après la primaire populaire, maintenant que Christiane Taubira a commencé ses démarches vers les autres candidats de gauche. Pour l'instant, les choses restent en l'état. Mais est-ce qu'on peut renverser la table dans les 3 semaines à venir? Vous nous direz si vous y croyez en dialoguant avec nos invités au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il reconnaît donc l'avoir tué. Il présente ses excuses à la famille.
Les premiers mots depuis le box des accusés de Nordal Lelandais. L'audience a commencé ce matin devant les assises de l'Isère à Grenoble. Nordal Lelandais, ancien maître chien, 38 ans, déjà condamné pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et aujourd'hui accusé du meurtre, de l'enlèvement et de la séquestration de Maëlys, 8 ans et demi, à Pont de Beauvoisin en Isère en 2017. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Tout l'enjeu de ce procès, Mathilde, ce sont les conditions de la mort de la petite fille. Lelandais a toujours soutenu qu'il n'avait pas agi volontairement et il s'est donc excusé au premier jour d'audience.
Oui, quand la présidente termine la lecture des faits, elle s'adresse à l'accusé. Est-ce que vous souhaitez faire des déclarations? Silence, Nordal Lelandais est debout dans le box avec sa chemise bleu clair et ses cheveux courts grisonnants. Il finit par lâcher. Je vais me tourner vers la famille. Je voudrais leur présenter mes excuses. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience. Ces mots, Nordal Lelandais les a déjà prononcés, quasiment les mêmes, à l'ouverture de son premier procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Mais cette fois, sur le banc des parties civiles, ce n'est pas le portrait du jeune homme, mais le visage de cette petite fille brune, souriante, une photo de Maëlys que sa mère serre sur ses genoux.
La cour s'est ensuite penchée sur le parcours de vie de l'accusé de son enfance jusqu'à cet été 2017.
Oui, la cour cherche à comprendre ce qui a pu se passer dans la vie de Nordal Lelandais pour en arriver là. Une enquêtrice de personnalité raconte une enfance, une adolescence sans encombre. Il n'y a pas eu d'événement traumatique, interroge un avocat des parties civiles. Absolument pas, tranche l'enquêtrice. Nordal Lelandais quitte le collège en 4e, commence un CAP mécanicien mais ne le termine pas, rentre à l'armée 4 ans comme maître chien, puis enchaîne petit boulot et arrêt maladie. Sur le plan sentimental, il y a eu des aventures qui ont compté, d'autres sans lendemain. C'est beaucoup d'expériences commencées, mais rapidement arrêtées, résume l'enquêtrice. Elle évoque sa consommation d'alcool, puis de cocaïne dès 2015. Il n'y a pas eu de point de bascule, interroge l'avocat de Lelandais. Non, rien de renversant. C'est maintenant la demi-sœur de Nordal Lelandais qui s'adresse à la cour.
Mathilde Vinceneux en direct de la cour d'assises de Grenoble avec Marc Garvenès. Verdict attendu le 18 février prochain.
La rupture est consommée entre Paris et Bamako.
La junte militaire au Mali a décidé cette après-midi d'expulser l'ambassadeur de France à Bamako. Joël Meyer doit quitter le territoire malien dans les 3 jours. Un nouveau durcissement dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Relations très tendues ces derniers jours. La semaine dernière, la ministre de la Défense, Florence Parly, accusait la junte de multiplier les provocations. Jean-Yves Le Drian parlait, lui, d'un régime illégitime. Cette expulsion est donc le dernier épisode en date. Pas surprenant, selon Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique.
Depuis des semaines, on assistait à un ping-pong. On voyait bien que la balle, elle revenait très, très vite et avec des mots très forts. Quand un porte-parole cite Alfred de Vigny en demandant à Florence Parly de se taire, voilà. Et on sentait aussi que là-dessus, ils sont sur deux. Et ils savent que la France est faible parce qu'ils savent que la France ne veut plus être seule et veut attirer ses partenaires européens. En fait, ils veulent prouver aux autres Européens, aux alliés de la France, qu'elle n'est pas si forte en Afrique. Elle prétend que c'est elle qui est la science sur l'Afrique. Et ben non, vous voyez, regardez comment on lui parle à la France. La France a cru toujours qu'elle était un peu indispensable. Et là, on voit qu'elle a totalement sous-estimé tous les sentiments, même pas anti-français, anti-colonialistes. Et comme dans la région, c'était quand même la France, ancienne puissance coloniale. C'est vrai que les jeunes Africains, ils pensent qu'à travers ça, ils vont vivre la véritable indépendance. Ils soutiennent à fond maintenant leurs militaires parce que ce sont leurs militaires.
Antoine Glaser avec Claude Guibal, réaction glaciale ce soir de la France. Paris prend note de l'expulsion de son ambassadeur. Des erreurs de leadership et de jugement, première conclusion sévère du rapport administratif dont Downing Street craint les effets dévastateurs. Le rapport sur le Partygate, ce scandale de fait à répétition à la résidence du Premier ministre britannique. La haute fonctionnaire dénonce des comportements difficiles à justifier au moment où les Britanniques étaient contraints de limiter leurs relations sociales, une consommation d'alcool excessive, des rassemblements sans autorisation. Je suis désolé, a lancé le Premier ministre Boris Johnson devant les députés, mais pas question pour autant de démissionner. Une enquête de police est également en cours.
C'est la cheville ouvrière du camp Zemmour.
Olivier Hubeda, grand organisateur des meetings du candidat d'extrême droite, Olivier Hubeda, qui va être entendu très rapidement par la police judiciaire de Paris sur des soupçons de viol. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Le conseiller en communication d'Éric Zemmour est donc visé par une plainte déposée il y a près de deux mois.
Oui, une plainte déposée précisément le 9 décembre dernier par un jeune homme de 18 ans. L'enquête ouverte le lendemain est confiée au premier district de police judiciaire, donc à Paris. Olivier Hubeda, 51 ans, réagit via son compte Twitter. Il parle de dénonciation calomnieuse. Le scénario est bien foutu, ça ne repose sur rien de réel, écrit-il, sous-entendant que ce sont des accusations qui visent à lui nuire, à lui et au candidat Éric Zemmour, qui s'est déclaré 10 jours avant le dépôt de cette plainte. Parfois, MeToo, c'est juste mytho, poursuit Olivier Hubeda, qui affirme ne pas savoir ce qu'on lui reproche. Il annonce être convoqué demain après-midi par les enquêteurs, entendu en audition libre pour une mise en cause, précise-t-il. Ce n'est pas une garde à vue, il peut quitter les lieux quand il l'entend. Son audition n'est pas la première de cette enquête. D'autres personnes ont déjà été entendues auparavant dans ce dossier.
Les précisions d'Ariane Grissel, merci, du service police-justice de France Inter. En politique, encore après l'après-primaire populaire à gauche. Pas de recomposition ni de rassemblement à l'horizon autour de la vainqueur Christiane Taubira, qui, comme elle l'avait promis hier, a appelé une partie de ses rivaux, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Échange cordial, a répondu le candidat communiste, mais qui maintient sa candidature. Jean-Luc Mélenchon lui met un préalable à toute discussion. L'arrêt immédiat, dit-il, des appels de son camp à bloquer les parrainages. Enfin, la socialiste Anne Hidalgo, elle, se voit renforcée par l'arrivée de 12 anciens membres de la campagne d'Arnaud Montebourg. Le pic de l'épidémie de Covid-19 se rapproche. Cette fois-ci, il semble que ce soit vraiment le cas. Le nombre de contaminations décroît depuis quelques jours. 250 000 cas hier, deux fois moins que la semaine dernière. Écoutez l'analyse plutôt optimiste de l'infectiologue Yazdan Yazdampana, invité du 13h de Marian Lourd.
On a eu l'impression que les cas, effectivement, baissaient depuis milieu de la semaine dernière. Donc il faut avoir une semaine pleine avant de dire, mais probablement on n'est pas loin de ce pic. Les hospitalisations vont commencer à baisser avec un délai de 15 jours après la baisse des infections. Et le fait que les réanimations s'abaissent, ce n'est pas non plus une surprise, parce qu'on sait que le variant Omicron est moins grave, et donc il y a moins de patients en réanimation.
Donc on a peut-être passé le pic. Est-ce qu'il y aura une autre vague derrière celle-là?
C'est très compliqué à répondre à ces questions, parce que on a eu beaucoup de surprises, on pourrait en avoir, mais malgré tout, on pense que maintenant, il y a un taux de vaccination très élevé, avec le variant Omicron, mais avec aussi les variants précédents, il y a aussi pas mal de gens qui ont eu déjà la maladie. Donc on peut penser qu'avec ces différentes couches d'immunité vaccinale ou naturelle, on sera mieux protégé, en tout cas contre les formes sévères ce qui est notre objectif.
L'infectiologue Yazdan Panin, invité du 13h de Marion Lourd. Le gouvernement au chevet des éleveurs de porc, la filière porcine en pleine crise, chute des cours, envolée des coûts de production, les éleveurs qui vendent à perte. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a donc annoncé aujourd'hui un plan d'urgence de 270 millions d'euros.
Et puis quand le prix du petit-déj s'envole.
L'ensemble des aliments qui composent en effet le petit-déjeuner voient leur prix flamber, jus d'orange, beurre et surtout café, plus 90% notamment pour les prix de l'arabica. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Une hausse toutefois qui n'affecte pas encore les consommateurs.
Non, aujourd'hui encore imperceptible pour le consommateur. Le prix du café a bel et bien augmenté de 2 à 4 euros le kilo chez les grossistes, du producteur aux importateurs en passant par les torréfacteurs. Toute la filière café regarde effarée le cours du café grimper en flèche à la bourse de New York, portée par la spéculation des investisseurs. La production mondiale a certes chuté avec un coup de froid au Brésil, le prix du transport maritime mondial qui a explosé. Les investisseurs s'en donnent à cœur joie. Si toute la filière café absorbe le choc aujourd'hui pour ne pas répercuter le prix au comptoir ou chez les détaillants, David Servis, président du collectif café qui regroupe 800 torréfacteurs, regarde inquiet ces spéculateurs jouer avec sa matière première.
Covid abondant, voilà. Bon, même si on a eu des périodes de gel au Brésil qui ont eu un impact, si vous voulez, sur le cours du café, même si aujourd'hui les prix du fret ont été à presque triplé, l'argent ne va pas dans les poches dans ceux qui cultivent, et je peux vous assurer que moi, en tant que torréfacteur, j'ai pas pris 1% de marge supplémentaire, quoi. Cette augmentation est liée à un marché financier qui a complètement explosé, quoi.
Sur un marché de 250 milliards d'euros au niveau mondial, les producteurs de café dans les plantations ne récupèrent que 10% de la valeur. La spéculation sur le café pourrait à terme les étrangler.
Laurent Kramer du service économie de France Inter. Les bons chiffres de la sécurité routière. 2947 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine l'an dernier. Moins 9% par rapport à 2019 avant la pandémie. Grosse ombre au tableau toutefois. Pour la première fois depuis 20 ans, le nombre de cyclistes tués a dépassé les 200 personnes.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent.
Allez, on ne va pas jouer au blind test, Fabienne, ce serait beaucoup trop facile, vous aurez reconnu sans difficulté. Amsterdam de Jacques Brel, bien sûr, et bien cette chanson et 160 autres, en fait, la totalité de ces chansons vont venir enrichir le catalogue des éditions Warner Chappell, qui gérait jusqu'ici seulement une partie du patrimoine du grand Jacques. C'est la fille de Jacques Brel qui a souhaité signer un nouvel accord. Il ne s'agit pas de vendre les droits, mais de mieux faire connaître son œuvre, Mathieu Culeron.
Déjà mandaté pour gérer les droits de 16 titres de Jacques Brel dans le monde, Warner Chappell va désormais s'occuper de l'intégralité du répertoire, ce qui ne changera rien à l'éthique familiale, comme l'explique France Brel, fille de Jacques.
Je refuse toujours tout ce qui peut concerner la politique, la violence, des scènes de sexe aussi un peu trop hard, ou même la publicité. Là, ils savent très bien que je dis non, c'est pas du tout le but recherché.
Jacques Brel qui avait confié le soin à sa femme de gérer ses droits, comme le confirme France Brel.
Comme ça l'intéressait pas, ben il a demandé à ma mère de s'en occuper. Et c'est comme ça que les éditions Brel sont nées. Mon père, au début, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, quand il voulait faire plaisir à quelqu'un, il donnait ses chansons en édition. Mais chaque fois que mon père rentrait, ma mère courait derrière avec son paquet de lettres et son stylo pour demander à mon père s'il était d'accord pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et une fois sur deux, il ne répondait pas, ça lui était égal, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à son œuvre, de tout âge, de toute nationalité, pour faire des tas de choses, pouvoir travailler avec le réseau Warner va continuer ce mouvement. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Ce contrat de gestion éditoriale des œuvres de Jacques Brel permettra sans doute à des créateurs d'utiliser ou de reprendre du Jacques Brel plus facilement dans les années à venir.
Voilà, Mathieu Culeron du service culture d'Inter. Et pour finir, à la rubrique Carnet Rose, un autre géant de la culture populaire française, nommé Zinedine Zidane, qui va devenir grand-père pour la première fois. Papy Zizou, ça nous rajeunit pas.
Comme
Fabienne.
Vous dites, Sébastien, merci beaucoup. À tout de suite dans Sous les radars, vous nous parlerez notamment de ce granit écossais dont on fait les pierres de curling.
Tout à fait.
Ce soir, nous interrogeons sur Daesh, qui refait surface en Syrie avec le grand invité du jour, c'est dans Un jour dans le monde. On viendra sur le Mali aussi, évidemment, ce soir. Et puis au téléphone sonne à 19h20. Alors, et maintenant la gauche, maintenant que la primaire populaire a sorti un nom de son vote, est-ce qu'on y voit plus clair? Alors pas aujourd'hui, c'est sûr, mais est-ce que la gauche a une fenêtre pour y voir plus clair? C'est autour de cette question qu'on vous attend au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Un temps très agité sur le sud-est.
Oui, le vent reste violent jusqu'en première partie de soirée autour de la Méditerranée, jusqu'à 100 à 120 km à l'heure, davantage sur les caps exposés. 110 à 130 sur le Var, qui est placé en vigilance orange. On a déjà enregistré 128 km à l'heure au Castellet et au Dramont. Alors demain, ça soufflera encore sur le sud-est et sur les crêtes des Pyrénées et des Alpes, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure, avec du soleil. Ailleurs, ce sera souvent très nuageux, avec en prime un petit peu de neige en montagne, et même jusqu'en plaine sur le nord-est le matin. Alors elle sera remplacée par de petites pluies l'après-midi hein, qui balayeront dès le matin le nord de la Seine, la région parisienne et le centre-val de Loire.
Et sinon, côté de baromètre, peu de changements.
Oui, les températures affichent encore des petites gelées sur le sud-ouest et sur l'est le matin. Et puis l'après-midi, petite hausse par le nord-ouest. Alors il fera 4 degrés à Nancy et Dijon, 6 à Clermont-Ferrand et Grenoble, mais 9 degrés à Paris, à Agen, 11 à Amiens et Bayonne, 12 à Caen, à Dinard, 13 pour Nîmes et 17 pour Ajaccio, Fabienne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.